Amen. Notre Dieu est fidèle. Notre Dieu ne faillit jamais. Notre Dieu va nous mener à bon port parce que lui est fidèle et lui seul est Dieu. Il est capable de tout. On va tout simplement, avant de prendre les annonces, tout simplement incliner la tête où vous êtes, dans vos différents lieux d'habitation, où que vous soyez. On va prendre tout simplement un temps pour rendre grâce à Dieu de l'opportunité que nous avons d'avoir la respiration, de pouvoir encore le louer, de pouvoir encore entendre la parole. Et suivant ça, on prendra quelques annonces pour vous. Donc, Seigneur, sois le bienvenu, Seigneur, au milieu de ton peuple. Je sais que ces temps particuliers dans lesquels, Seigneur, nous sommes plongés, Seigneur, non pas l'Église, mais l'Église et les autres aussi, Seigneur, que ce soit dans toutes les sphères de la société, c'est un temps difficile, Seigneur. Et tu as dit, Seigneur, dans ta parole, « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, de nous mettre sous cloche de verre, mais je te prie de les garder du mal. » Et ainsi, Seigneur, les choses qui arrivent sur cette terre, ton Église aussi les voit arriver. Ton Église aussi les vit, Seigneur. Mais nous, Seigneur, nous avons cette espérance bénie que toi, tu es au milieu de nous dans toutes les situations de cette vie. Donc, Seigneur, nous voulons te rendre ce matin un culte qui te soit agréable, un culte, Seigneur, qui te soit, Seigneur, d'une agréable odeur. Nous nous offrons, nous, comme sacrifice vivant. Que ton peuple, Seigneur, qui va louer ton nom dans quelques instants, Seigneur, avec la bien-aimée, Seigneur, que ton peuple puisse être transporté dans la louange. Ce n'est pas le lieu, tout simplement, qui fait qu'on est à l'Église. C'est le regroupement aussi en esprit de ton Église, Seigneur. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis ton peuple, Seigneur, ce matin. Et donne-nous, Seigneur, d'être de vrais adorateurs qui adorent en esprit et en vérité. Amen. Tout simplement, quelques annonces à partager avec vous avant le temps de louange. La première annonce, c'est naturellement, comme vous savez tous, la fermeture des lieux de culte, tel qu'a annoncé le premier ministre Legault, Santé publique. Dorénavant, pour l'instant, on ne peut accueillir de public. Et jusqu'à nouvel ordre, si vous voulez, on fonctionne à huis clos, c'est-à-dire toutes nos réunions en présentiel sont donc annulées. Aucune personne autorisée dans le sanctuaire à accéder, si vous voulez, au bâtiment. Seuls ceux qui sont en service pour servir. La thématique 2022, dont je vous avais aussi parlé un peu la semaine dernière, que le pasteur Florent nous amènerait, est tout simplement remis à la semaine prochaine. Dieu voulant, le pasteur Florent va prendre le temps pour la parole. Son temps d'isolement préventif va être terminé, auquel il était soumis pour l'instant. Et le protocole étant terminé, va être au milieu de nous et va nous donner la thématique 2022 pour cette année, dimanche prochain. Traduction. Aujourd'hui, il n'y a pas de traduction. Aujourd'hui, la parole va être donnée tout simplement par moi dans une seule langue. Vous me pardonnerez, mais mon espagnol n'est pas très, très joli à entendre. Donc, nos traducteurs réguliers, c'est-à-dire le pasteur Sergio, le pasteur et le frère Lionel, étant tous deux en isolement dû à la COVID, la prédication du jour va être en français uniquement. Nos rendez-vous de la semaine, eux, par Zoom, par les différentes plateformes web, naturellement pas en présentiel. Nos rendez-vous de la semaine sont du lundi au vendredi, 8h30 avec le pasteur Florent pour les bénédictions matinales, lundi, c'est-à-dire la semaine, demain soir à 19h, pardonnez-moi, je mets mes idées en place, c'est-à-dire demain à 19h, cours sur l'épître aux Éphésiens que je vais poursuivre avec vous. Mardi à 19h aussi, c'est le cours pour les nouveaux ou si vous aimez mieux fondement chrétien, on est rendu à regarder et je suis en train d'un peu de vous amener un peu plus loin. On est en train de regarder concernant la résurrection d'entre les morts. Mercredi, c'est notre étude biblique, mais elle n'est pas en présentiel via les plateformes web. Vendredi à 19h, le pasteur Florent fait soirée de prière et intercession. Et aussi le vendredi 19h, réunion jeunesse qui pour cette semaine est annulée encore. Et le dimanche prochain, c'est notre culte d'adoration. C'est notre culte où nous rendons à Dieu la gloire, la louange. Pour ce qui est des dîmes et offrandes, comme d'habitude, vous pouvez faire parvenir à l'Église par l'adresse civique, un chèque ou mandat à EAJC 6597 Boulevard Saint-Laurent, Montréal, Québec, H2S3C5, ou par virement Interact en ligne, par le site web de votre banque ou son application mobile. L'adresse électronique, c'est secrétariat EAJC@gmail.com. La question de sécurité qu'on va vous demander, c'est adresse. La réponse, c'est l'adresse civique de l'Église 6597. Ceci étant dit, prenons un bon temps et rendons à Dieu toute la louange que notre Dieu s'attend d'avoir d'un peuple qu'il s'est acquis par son sang. Bonne assemblée à tous. Oui, Seigneur, tu es digne de toute louange, de toute adoration. Seigneur, tu nous as donné, Seigneur, le don, Seigneur, de la parole. Tu nous as donné, Seigneur, de pouvoir louer ton nom, Seigneur, avec nos mots, pouvoir engager, Seigneur, ce don, Seigneur, de la parole, Seigneur, pour mettre des mots, des faibles mots sur toute ta bonté, toute ta fidélité, Seigneur. Seigneur, nous t'aimons, Seigneur. Nous t'aimons, Seigneur, et nous voulons, Seigneur, t'être agréable. Donne-nous des pensées et des cœurs tourné vers toi. Qu'on puisse, Seigneur, aujourd'hui s'offrir nous-mêmes comme des sacrifices vivants sur l'autel, Seigneur, sur l'autel de la foi. Sachant, Seigneur, que notre travail, que nos louanges et que même nos souffrances ne sont pas vaines en toi, Seigneur, mais qu'un jour, au jour de l'éternité, au jour où nous connaîtrons comme nous avons été connus, alors ton peuple comprendra à quelle félicité, à quelle grande grâce, Seigneur, ton peuple a eu accès au Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, de nous permettre de te louer, Seigneur, et de t'adorer. Seigneur, maintenant, nous allons regarder ta parole. Donne-nous des cœurs attentifs, des cœurs, Seigneur, qui soient tournés vers ta parole, Seigneur, afin qu'on en retienne et qu'on en reçoive les dividendes aux yeux. J'ai prié dans le nom de Jésus. Et tout le peuple dit « Amen ». Et je sais bien que vous n'êtes pas dans la salle, mais je parle le peuple. Vous qui m'entendez, on dit « Amen ». On va regarder ce matin un sujet auquel je veux partager avec vous, dont on parle dans les actualités de façon un peu récurrente. C'est-à-dire, on parle de... Les gens sont saisis par la condition dans laquelle on vit maintenant. J'écoutais un psychologue qui disait ce qui se passe là, le confinement, déconfinement, reconfinement, ce que ça produit chez les gens, le niveau d'anxiété qui augmente, les gens ne trouvent plus le sommeil et le médecin en question disait les écoutes sont plus difficiles. Et juste hier, je lisais dans une revue, pas physique, là, mais qu'il y avait sur le web qui a attiré mon attention sur le fil de presse. Et c'était des professeurs qui disaient, ni plus ni moins, que les enfants, lui employait le terme, ils sont scotchés à leurs écrans. Ils oublient la situation, ils oublient le tout, ils sont scotchés à leurs écrans, regardent toutes sortes de choses, participent à des jeux virtuels. Et cet enseignant-là, il disait, nous ne sommes plus capables de capter l'attention des enfants. Il dit, même avant ce confinement-là, on avait de la difficulté. Il dit, je m'imagine, qu'est-ce que ça va avoir l'air au retour? Donc, les événements actuels, ceux peut-être même à venir, même si on nous dit que probablement que cette vague-là est une des dernières grosses vagues, personne n'en a la certitude. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, on ne doit pas se détourner à cause des événements, on ne doit pas se détourner de notre écoute via le Seigneur. La question qu'on se pose, quelle est l'écoute qu'on donne au Seigneur? Quelle est vraiment cette écoute-là qu'on lui donne? Est-ce que Dieu a notre attention? Est-ce que Dieu a notre attention due à toutes les choses qui se produisent? On est capté par les écrans. Les gens oublient même le temps de prière. Je parle avec des gens qui disent « Ma vie chrétienne en a pris un coup. » Les gens n'ont plus cette attention via le Seigneur. Oh, excusez-moi. Juste un instant. Oui, bonjour. Ah, salut, ça va?
Ça va, toi?
Oh. Ah, je suis en train de prêcher, pas grand-chose.
Ah oui,
oui. Ouais? OK. OK. Ah oui, tu m'appelleras plus tard. OK. Salut.
Excusez-moi. J'ai eu un appel.
Est-ce que vous trouvez inconvenant ce qui vient d'arriver? Ne craignez rien, c'était prévu. Est-ce que vous trouvez inconvenant? Le prédicateur est sur la tribune, est en train de vous donner la parole et tout à coup, téléphone sonne, on répond. Allô, est-ce que c'est bon? Pas grand-chose, je suis en train de prêcher. Ah, il dit, OK, je te rappelle plus tard. Bien-aimé, je vous l'ai dit, là. J'avais dit au frère de me téléphoner. J'avais dit au bien-aimé de me téléphoner. Et quand j'ai dit hier à Lionel, ne me coupe pas quand ça va arriver, c'est arrangé avec le gars des vues. Lionel me dit, oublie pas de fermer ton téléphone après. Je reçois d'autres appels. Quand je suis en train de vous parler, et là, j'ai un appel, je décide d'arrêter, j'arrête la prédication, je réponds à mon appel. J'avais même le goût de retourner derrière le rideau, mais là, je me suis dit, ne va pas trop loin dans l'exemple que tu veux leur donner. Ne quitte pas la tribune. Bien-aimés, soyons clairs. Ce qui s'est passé là est tout à fait inconvenant. Je ne crois pas qu'il n'y aurait personne qu'il l'aurait fait de façon non organisée. Pourquoi? Parce qu'on sait qu'il y a des gens qui nous écoutent. Quel va être le titre de la prédication? Dieu a-t-il notre attention? Ça va être le titre de cette prédication aussi. Et j'ai voulu, par cet appel téléphonique-là, de vous montrer qu'on peut se détourner facilement, on peut détourner facilement notre attention de la parole de Dieu. Facilement détourner notre écoute de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il y a dans ce monde beaucoup de choses envahissantes. Quand j'étais petit, la télé, je vais dire, il est vieux le pasteur André, mais quand j'étais petit, j'ai déjà été petit, quand j'étais petit, le pasteur André écoutait la télévision comme tous les enfants. Nous, elle était noir et blanc, et la télévision ouvrait environ vers 8 ou 9 heures le matin, je ne me souviens plus, mais fermait, ne diffusait plus à partir d'environ 11h30 ou minuit, où j'étais déjà couché. Pendant la nuit, vient quelqu'un qui ouvrait, il n'y avait rien, à la télévision. Aujourd'hui, on peut écouter la télévision 24 heures sur 24, pas juste un poste. Nous, il y avait 4 postes principaux, 2 en anglais, 2 en français, il n'y avait rien d'autre. Aujourd'hui, je sais qu'il y a des centaines de canaux de télé. Donc, il y a tout pour capter notre attention, tout pour nous éloigner de l'attention qu'on devrait avoir au Seigneur. Ne prenez pas la prédication que je vais faire maintenant. J'étais dans mon prélude. Ne prenez pas cette prédication-là comme une attaque en règle ou une attaque personnelle. Je vous la donne comme une exhortation et je vous la donne comme quelque chose de bienséant dans le Seigneur et non pas comme un reproche. On utilise tous la technologie à plus ou moins grande intensité, je vais dire ça de cette façon-là. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui vont passer beaucoup de temps sur les médias sociaux. Il y a des gens comme moi qui en faisons à peu près pas d'utilisation. C'est pas l'utilisation dont je veux vous parler. C'est la quantité. C'est pas l'utilisation dont je veux vous parler. C'est le temps précieux qu'on peut y perdre à l'utilisation. Dans les temps qu'on vit là, dans ces temps-là que le monde n'a pas connu à peu près depuis leur vivant, il faudrait que les gens aient au-dessus de 100 ans, un temps qui est déstabilisant, un temps qui est particulier. Est-ce que nous nous faisons avaler, passez-moi l'expression, avaler par les nouvelles, avaler par les réseaux sociaux, avaler par la pensée des réseaux sociaux, ou est-ce que Dieu et sa parole ont notre attention? Vous savez, on peut se faire distraire par beaucoup de choses. Beaucoup de choses peuvent mener à la distraction. Et beaucoup de choses peuvent nous amener à ne plus regarder la parole de Dieu, à ne plus entrer dans sa chambre, fermer la porte, comme la parole de Dieu nous demande de le faire, et communier avec le Seigneur. Et pourtant, on vit des temps très particuliers. C'est l'inverse. Nous devrions prendre plus de temps. Parce qu'on vit des temps particuliers. Mais le propre de l'être humain est plus de s'agiter. Il y a plusieurs voies qui veulent capter votre attention. Et ensuite de ça, on va prendre quelques passages aujourd'hui. Mais il y a plusieurs voies qui veulent capter votre attention. Les médias sociaux, Souvent, nos vies sont rythmées au gré des sonneries de notre appareil. Telle sonnerie, c'est pour telle chose. Moi, je ne l'ai pas, je ne sais pas comment ça fonctionne. Telle sonnerie, c'est pour telle chose, telle sonnerie. Une sonnerie est plus importante qu'une autre. On répond à telle sonnerie, on ne répond pas à l'autre. Est-ce qu'on répond à la sonnerie du Seigneur? Ou on répond à d'autres sonneries? Quand je vous dis qu'il y a plusieurs voix qui nous parlent, j'en prendrai principalement quatre aujourd'hui. Nous nous parlons à nous, parce que vous savez que vous vous parlez à vous tous les jours. Il y en a même des gens qui se parlent à très haute voix. Moi, je suis un de ceux-là, quelquefois. À la prière, j'ai cette tendance-là, toujours à prier à haute voix. Parce que prier à haute voix a l'avantage de capter mon intellect. C'est un peu ce que j'enseignais à un moment donné ou ce que je disais aux personnes. Faites le test. Vous avez juste à compter dans votre tête puis dites votre nom. Vous allez vous apercevoir au moment où vous dites votre nom, vous allez avoir arrêté de compter pendant la fraction de seconde. Donc, un des avantages à prier à haute voix, c'est que tu captes ton être tout entier. Tu empêches ta pensée de vagabonder. Donc, une voix qui nous parle, nous-mêmes. Nous, on se parle. Nous, on se parle. Est-ce qu'on se dit les bonnes choses? Est-ce qu'on dit à notre âme, entre autres, « Mon âme, c'est l'heure de la prière. Tu t'en vas à la prière. » Nous, on se parle. Le monde nous parle. Et nous pouvons constater cela depuis que les médias sociaux sont abondants. Hier, je parlais avec une bien-aimée qui m'a appelé, elle t'inquiète pour sa santé. J'ai pris un temps pour parler avec elle. Elle est malade, vous devinez quoi? Donc, elle est très malade. Et j'ai parlé, je lui ai dit, écoute, moi, ce que je te dirais, et je lui ai donné un certain paramètre, puis je lui ai dit, téléphone 811. Suivant ça, j'ai parlé avec un autre bien-aimé, un peu sur le même sujet. Ce sujet-là est en train de remplir toute la société, et les réseaux sociaux, ils ne sont pas exempts de donner les écoles de pensée. Je me souviens qu'un commentateur disait, depuis que la pandémie est arrivée, il dit, tout le monde est rendu des experts en virologie et ainsi de suite. Donc, nous, on nous parle. Le monde nous parle de différentes formes, de différentes façons, que ce soit les médias sociaux, que ce soit les cercles qui se forment. Le monde nous parle. Je n'ai pas une bonne nouvelle. Le diable vous parle aussi. Même si vous êtes enfant de Dieu, il cherche à avoir une place, une parole. Il cherche à avoir quelque chose avec lequel il va pouvoir avoir un peu une poigne sur toi. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que le diable ne peut pas avoir aucune prise sur eux. J'ai déjà dit une fois à quelqu'un, si Dieu n'a pas une prise sur toi et tu fais des choses, il faut te demander qui a une prise sur toi. Vous savez, depuis le début de cette crise-là, il y a toutes sortes d'écoles de pensée qui passent, et dans les églises aussi. Il y a toutes sortes d'écoles de pensée, il se fait même des clivages. Mais je crois que nous devons de rester fidèles et fermes à la parole de Dieu. Pas être guidés selon mes sentiments, selon mes émotions, mais être guidé par la voix du Seigneur. Et principalement, Dieu nous parle par sa parole. Mais le diable va essayer de nous diviser pendant ce temps. D'accord, je vais vous le dire directement. Le diable n'essaie pas de nous diviser pendant ce temps. Le diable nous divise. J'ai pu le constater. soit par la pensée, soit par des choses qui sont lues. Et là, je ne vous parle pas d'être pro ou de ne pas être pro. Ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Je vous parle que notre lieu de réunion en tant qu'enfant de Dieu, et je ne parle pas de la salle, notre lieu de réunion, c'est en Christ. Notre lieu de réunion, c'est dans la parole. Je disais à un moment donné à mon épouse, on avait un homme qui fréquentait un autre, on va dire ça comme ça, un autre type de foi. Il était pasteur dans ce type de foi-là. On appelle ça un berger, eux. Et on se croisait. Et cet homme-là, souvent, disait bonjour, Dieu vous bénisse. Et ma femme répondait bonjour, Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse, mon frère. Dieu vous bénisse, mon frère. Moi, je disais bonjour, monsieur. Je continue. Elle a dit Dieu vous bénisse, mon frère. Puis à un moment donné, ma femme me connaît tout de même assez. Elle dit pourquoi tu lui dis jamais mon frère? Je dis parce que c'est pas mon frère. Je dis, mon frère n'est que mon frère que dans la foi. Sinon, c'est une autre créature de Dieu. Ça ne veut pas dire de ne pas être gentil avec. Là. J'ai déjà été l'aider à pelleter sa voiture, là, soyons clairs. Où nous nous réunissons? Nous nous réunissons dans la parole. Où nous trouvons une pensée commune? Nous la trouvons dans la parole. Mais pour cela, il faut que Dieu ait notre attention. Et on va prendre un exemple. Donc, on a vu, nous, on se parle, le monde nous parle, le diable nous parle, et Dieu nous parle. À qui portons-nous notre attention? Vous allez tourner avec moi dans Luc, au chapitre 10. Je vous fais une lecture que vous connaissez, je n'ai pas la prétention de vous apprendre rien. Je veux pousser une réflexion chez vous. Luc, chapitre 10, verset 38, et on va lire jusqu'au verset 42. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Une femme, nommée Marthe, le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur, nommée Marie, qui étant assise au pied du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne t'a-t-il fait rien que ma sœur me laisse seul pour servir. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point enlevée. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point enlevée ou ôté, tout dépendant les versions que vous avez. Je veux regarder une chose avec vous. Je sais qu'on a entendu de nombreux messages sur le fait, dans ce passage-là, que la parole de Dieu puisse avoir la préséance sur toutes nos activités. Et mon message ne diffère pas beaucoup de ce que la parole de Dieu nous dit. Je veux tout simplement attirer votre attention sur quelques petits éléments dans les différents versets qu'on a regardés. Jésus se dirige, il va dans une maison de personnes qu'il connaît, il entre là et il commence à donner la parole. Et il y a deux sœurs. Il y a une des sœurs. Et l'expression « est assise au pied de Jésus », ça ne veut pas dire qu'elle était assise au pied, elle était peut-être assise à ses pieds aussi. C'est une expression qui nous dit « elle était à l'écoute ». Je vous le dis tout de suite, là, Paul dit qu'il était élevé au pied de Gamaliel. Quand on parle, oui, généralement, l'image qu'on a, et elle n'est pas fausse, je vous le dis tout de suite, les étudiants s'assoyaient par terre et le maître était sur une petite estrade et donnait son enseignement. Mais l'expression aussi « au pied de quelqu'un », ça veut dire « à l'écoute de ». Tu es à l'écoute de la personne. Donc, Jésus rentre et selon le texte qu'on a là, il y a une femme qui est en train peut-être de préparer le repas pour Jésus, sûrement en train peut-être de ranger la maison, faire une place à dormir à Jésus, toutes des choses qu'il faut les faire. Il faut les faire. Et l'autre femme, elle s'est mise en position d'écoute. Je vous le répète, c'est important. Elle s'est mise en position, elle a pris une posture d'écoute. Et là, on va s'engager une narration. Elle va parler devant sa sœur, elle va dire, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? » Et Jésus va lui faire une réponse que peut-être elle n'a pas aimée. Et c'est surtout, je vais m'arrêter à une partie de la réponse. Où le Seigneur va lui dire, « Marthe, Marthe! » Il l'appelle deux fois par son nom. Captez l'attention de quelqu'un. Si je dis, admettons, au frère Gilles, qui est ici, Gilles, Gilles, naturellement, si je dis deux fois son nom, il va dire, c'est soit que c'est urgent ou il se produit quelque chose. Ce n'est pas en vérité, je te le dis, Marthe. Il dit, Marthe, Marthe. Attirer son attention et suivant ça, il va dire deux termes. Je vais en prendre un plus particulièrement que l'autre. Tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. Et je vais vous mettre ça en bien aligné avec un autre passage biblique que vous connaissez bien. Donc, le Seigneur répondit au verset 41, le Seigneur lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Il peut y avoir plusieurs choses qui nous inquiètent. Il peut y avoir plusieurs choses qui nous agitent. Le terme « inquiète » ici, c'est le terme « merinamo », qui veut dire « être inquiet », oui. « Être troublé par des soucis », oui. « S'occuper » d'une chose, oui, mais qui veut aussi dire chercher à promouvoir ses propres intérêts. Ce terme-là englobe tout cela. Avant la pandémie, j'ai commencé à inviter des gens chez moi, avant la pandémie. Et je disais, je veux juste avoir un temps pour parler, on va parler peut-être du Seigneur, mais juste parler, savoir qu'est-ce qu'ils font dans la vie, regarder le besoin, rien de compliqué à voir. Et j'ai dit aux personnes, ça se pourrait, c'est possible que je vous reçoive tout simplement, que j'aille au restaurant chercher de la pizza et amener de la pizza, parce que le but, c'est pas de vous faire voir si j'ai une belle maison bien rangée ou mes talents ou les talents de ma femme à la cuisine. Le but, c'est le temps de communion. Le but, c'est le temps de communion. Et ma femme me disait, et je ne vous dis pas que ma femme avait tort, « Non, André, on ne peut pas faire ça. » Ma femme étant une femme, je rends grâce. Elle dit, « On ne peut pas faire ça. » Elle dit, « On va faire de la lasagne, on va faire du gâteau. » Et j'ai eu certaines discussions avec mon époux. Je lui ai dit, écoute, OK, on va le faire, je vais t'aider. Mais je dis, si ça devient trop récurrent, je veux juste pas que tu te sentes mal à l'aise parce qu'on va recevoir les gens comme ça. Le but de la rencontre n'est pas le repas. Le but de la rencontre, c'est avoir un temps avec eux. Marie et Marthe étaient toutes les deux des disciples. Et c'est que les deux n'ont pas eu la même réaction. Il y en a une qui s'est mise à être inquiète parce que Jésus ne lui avait pas téléphoné avant. Il n'avait pas envoyé un texto pour dire « j'arrive ». Et quand il est rentré, peut-être que la maison n'était peut-être pas tout à fait à l'ordre. Peut-être qu'il y avait des choses à faire. Mais ces choses-là étaient secondaires du point de vue du maître, du point de vue de Jésus. Nos activités, il faut que nous les fassions. Il faut, oui, faire la nourriture. Il faut nettoyer la maison. Il faut prendre le temps à certaines choses. Et maintenant qu'on est en télétravail pour plusieurs d'entre nous, eh bien, le travail et la maison se fondent un peu ensemble. Et peut-être qu'au travers de tout cela, notre temps privilégié, notre temps d'arrêt, notre temps où on fait silence des choses, des activités usuelles, peut-être que ce temps-là n'existe plus. Peut-être que ce temps-là n'existe plus. Marthe, Marie, deux disciples, Marthe, Marie, deux personnes qui aimaient le Seigneur, Marthe, Marie, deux personnes qui recevaient le Maître, ne l'ont pas reçu de la même façon. Et c'est pour ça que dans le verset 41, il dit « Tu t'inquiètes » et le deuxième terme employé, « Tu t'agites ». Le terme ici, « Tu t'agites », c'est quelqu'un qui court ça et là, qui il va partout. On peut être agité mentalement, on peut être agité émotionnellement. Je suis certain que vous pouvez reconnaître en vous des périodes d'agitation que vous avez eues, même depuis la pandémie. Des périodes d'agitation que vous avez eues, des coups. Qu'est-ce que j'ai? Je vous ai dit à une intervention que j'ai eue le mois passé que c'était drôle et pas drôle à la fois. J'allais faire mes courses, moi aussi, et naturellement avec un masque, comme tout le monde, là. Et quand quelqu'un toussait, et je me rappelle d'un événement, et je vous l'ai conté, mais je vous le redis, c'était vraiment poignant, là. La personne, elle compte fruits et légumes au supermarché, et tout à coup, elle fait jeu. D'un coup, elle regarde, elle voit que tout le monde s'est tourné vers elle. Tout le monde s'est tassé. Là, après ça, la pauvre personne n'osait plus. Elle ne voulait pas se faire jeter hors du groupe. Mais je regardais, là, et personne ne voyait, mais au travers de mon masque, j'avais un large sourire. C'était tragico-comique pour cette pauvre dame-là. Qui cherchait à retenir sa quinte de tout parce que les gens allaient la fuir. Les gens sont inquiets. Peut-être que vous êtes inquiets aussi. Les gens s'agitent. Peut-être que vous vous agitez aussi. Aller en agitation, ça et là, commence d'abord par la pensée. D'accord? Commence d'abord par la pensée. Je me rappelle, et je vous le dis à la blague, parce que c'était drôle, là. Je me rappelle, un peu avant la pandémie, on m'avait envoyé, puis j'avais des nombreuses migraines, on scanne et tout, mais à un moment donné, je me suis retrouvé devant une neurologue. Et je me rappelle que cette femme-là avait pris vraiment beaucoup de temps. Elle dit, vous allez me raconter une de vos journées typiques de travail. Je dis, d'accord. Donc, j'y donne ma journée. Et je me rappelle de l'expression qui était juste drôle. Là. Elle regarde, tout ça, Nicole me regarde. Ouais, elle dit, moi aussi, je ferais des migraines. Elle dit, vous devez délester certaines choses. Elle dit, on va vous soigner, et ainsi de suite. Mais elle dit, je crois que vous vous êtes trop agité. Est-ce que ça se peut que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on s'inquiète, on s'ajuste, on s'agite? Tout à fait. Est-ce que ça se peut qu'on le fasse outre mesure? Ça se peut. Est-ce que ça devrait être? Non. Le Seigneur va dire, par vos inquiétudes, vous ne pouvez ajouter quoi? Une coudée à votre propre vie. Par vos inquiétudes, vous ne pouvez rien ajouter à votre vie. Par notre agitation, on ne peut rien ajouter non plus à ce qui arrive présentement dans le monde. On doit prendre la posture d'un enfant de Dieu. On doit, au milieu de la cohue qui se passe actuellement, avoir la bonne parole, la parole juste. Je parlais à quelqu'un dernièrement et il me dit, « Ah, je te remercie, pasteur, tu me rassures. » Mais comment on peut faire pour rassurer quelqu'un juste avec des paroles humaines? Il faut se servir de la parole de Dieu en tant qu'enfant de Dieu. Est-ce que la parole, sommes-nous assez à l'écoute? Est-ce que Dieu a assez notre attention pour qu'on puisse emmagasiner la parole de Dieu dans ces temps difficiles-là où nous sommes agités, nous sommes inquiets ou occupés? Et je sais que depuis la dernière décennie, là, je vais ratisser plus large avec les médias sociaux, avec les nouvelles instantanées. Je sais que les gens sont saisis par toutes sortes de nouvelles. Tantôt, par l'appel que j'ai eu, j'ai voulu vous faire voir quelque chose d'inhabituel à la tribune. Quelqu'un qui répond au téléphone. Parce que, naturellement, j'aurais dû être concentré sur ce que je suis en train de faire. Les gens viennent à l'Assemblée. Ce que je dis souvent aux personnes, vous amenez votre corps à l'Assemblée, amenez votre esprit aussi. Quand on est à l'Assemblée, est-ce que Dieu a notre attention? Quand on dit qu'on va prendre un temps à la lecture de la parole, un temps à la prière, est-ce que le Seigneur a notre attention ou est-ce que notre attention est captée, happée par autre chose? Les médias sociaux n'étant qu'un des moyens par lesquels on peut être amené loin d'eux. Moi, je ne l'ai pas assisté, mais mon frère dans la chair me l'a conté parce qu'il a trouvé la chose très étrange. Avant la pandémie, mon frère va chez une restauration rapide, on n'aimera pas le nom, là, entre pour prendre un café et parler avec quelqu'un. Et il y avait une dame à l'autre table avec, vous savez, les sortes de chaises à position, mais aussi qui bercent pour un bébé. Là. C'est à la fois un banc à mettre dans la voiture, mais quand on le décroche, c'est aussi une berçante. Et la femme, mon frère me dit, la femme avait son téléphone, elle avait un pied sur la berce du bébé, et elle le berçait avec son pied. Et le bébé regardait partout. Elle le berçait avec son pied. Et elle est occupée sur les médias sociaux. On ne portera pas de jugement si quelqu'un l'a déchauffé, là, soyons clairs. Mais on nous apprend en médecine qu'un jeune enfant, un bébé, il faut qu'il voit le visage de papa, maman, il faut qu'il voit les expressions. Vous rappelez-vous au début, dans les garderies, il disait que le fait, et j'avais lire tout un long article là-dessus, il disait, si on garde le masque et qu'on ne fait pas une fenêtre dans le masque, si on garde le masque trop longtemps chez les jeunes enfants, on va les déshumaniser. J'avais entendu ça par un pédiatre. Il dit, parce qu'il se réfère à nos expressions faciales et ainsi de suite pour socialiser. Fait que ce bambin-là, qui était dans cette chaise à position-là, ce qu'il va connaître de sa mère, c'est son pied. Parce qu'elle berce avec son pied. Je ne vous dis pas qu'elle le faisait tout le temps. C'est pas ça. Je ne porte pas une accusation. Je vous dis que maintenant, on a été happé par toutes sortes de choses. Est-ce que la parole de Dieu est capable d'attirer notre attention? Est-ce que l'Esprit de Dieu est capable d'attirer notre attention? Le Seigneur était lui-même dans une maison avec deux femmes et il a tiré l'attention d'une des deux. C'est ce que le texte nous rapporte. Il a tiré l'attention d'une des deux. Et là, je vais vous amener un peu plus loin dans la réflexion. Non seulement il aurait pu dire, Marthe, viens t'asseoir. Là. C'est moi le maître, viens t'asseoir. Sois assise là, et écoute ce que j'ai à vous dire. Il ne l'a pas fait. Il faudrait peut-être s'arrêter et se poser sur quelques questions sur le fait que le Seigneur est en pleine autorité, en toute autorité pour le faire. Il ne l'a pas fait. Dieu ne force pas votre écoute. Dieu n'enfonce pas la porte de votre maison pour dire « Écoute-moi, là. » Il y a des situations, des choses qui peuvent arriver. Tu peux soit t'agiter, soit t'arrêter et de dire « Qu'est-ce que tu veux, toi, Seigneur, là-dedans? Qu'est-ce que je fais, Seigneur, avec cette situation-là? » Mais si tu ne fais que t'agiter, si tu ne fais que t'inquiéter, et qu'en dernier lieu, quand tu as épuisé toutes les autres ressources, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Et même souvent, des personnes vont aller jusqu'à dire, mais Seigneur, pourquoi tu n'as rien fait? Ben, il dit, peut-être que le Seigneur dirait, mais je voulais te dire des choses, mais tu étais trop occupé. Le Seigneur aurait pu reprendre facilement Marthe, aurait pu la prendre et lui dire, non, assieds-toi, c'est le temps de la parole. On ira chercher de la pizza au lieu d'un repas fait maison. C'est une blague, là, mais il y a des choses qui peuvent attendre. La parole de Dieu ne peut pas attendre. On dit amen ou on dit ouch. Il y a des choses qui peuvent attendre. La parole de Dieu n'attend pas. Il va dire, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Le verset 42, une seule chose, il ne dira pas est importante ici. Là. Il va employer le terme nécessaire. Plus nécessaire que de préparer un repas. Plus nécessaire que le manger et le boire. Plus nécessaire que savoir comment on va se sortir de cette pandémie-là. Plus nécessaire que tout. Nécessaire à qui? C'est mon autre point que je prends dans ce passage-là. On a regardé s'inquiéter, qui veut dire être troublé par des soucis, ou promouvoir ce que lui veut faire. Quand on parle de promouvoir son propre intérêt, on n'est pas en train de parler de quelqu'un qui fait la promotion de soi-même, mais qui veut que ces choses soient faites et qui fait passer ces choses à lui avant les choses de Dieu. Moi, je pourrais dire « ouch ». C'est de ça qu'on est en train de parler quand il parle de s'inquiéter. C'est quand il parle de cette promotion-là, c'est nos choses d'abord. Puis le soir, quand je me couche, je prie. Si je ne tombe pas endormi. Quand j'ai tout fait mes choses à moi, Seigneur, je lis. Quand j'ai terminé ma journée, eh bien, je vais m'occuper de toi, Seigneur. Et le Seigneur de dire à Marie que sa sœur choisit la bonne part, une part qui est nécessaire. Bien-aimés, on a tous des activités à accomplir. moi, après ici, j'ai mon frac, il faut que je m'occupe, j'ai des choses à faire. Ce matin, avant de partir, j'ai vu à ce qu'il prenne sa médication. Je lui ai mis des denrées un peu au frigo. J'ai fait quelques petites choses. Mais ce qui est nécessaire, c'est d'abord Dieu. À la fin, c'est tout ce qui va rester. À la fin, il ne restera rien d'autre. Tout ce que tu auras accompli dans ta vie, hors la parole de Dieu, tout ce que tu auras accompli pour ton bien-être personnel, et je ne vous dis pas que c'est mal de s'occuper de son propre bien-être, je vous ai dit que ce n'est pas la priorité. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas la priorité. De prendre soin de ces choses, c'est nécessaire. Je vous donne un exemple. Avant-hier, j'ai fait venir un plombier. C'était nécessaire. Il y avait beaucoup d'eau. J'ai fait venir un plombier. Il fallait que ce soit fait. Quand on parle de s'inquiéter ou de s'agiter, Dieu comprend, le Seigneur sait qu'on a des choses à produire. Mais si on ne produit que pour notre bien-être, que pour nous, c'est là où le terme marimano trouve toute sa force, c'est-à-dire on cherche à promouvoir nos besoins, notre propre intérêt, notre temps à nous. Est-ce que notre temps nous appartient plus à nous ou à Christ? Et je sais que à ce niveau-là, nous fautons tous. Je ne suis pas en train, c'est pas une prédication qui se veut accusatrice. Elle se veut une saine et une sainte réflexion. Est-ce que Dieu a notre attention dans toutes les sphères de notre vie? Ou il ne l'a pas? Il va lui dire une seule chose, verset 42, est nécessaire. Et regardez bien la partie C du verset. Marie a choisi. Marie, ça n'y a pas été imposé. Marie, Dieu ne l'a pas pris par le bras. Dieu ne l'a pas isolé. Marie a fait un choix. Marie a choisi la bonne part. Est-ce que Dieu est en train de dire quelque chose à Marthe? Tout à fait. Il est en train de dire à Marthe, tu fais tes choses, right, c'est correct. Mais la bonne part, la part qui ne sera pas enlevée, ta sœur l'a choisi. C'est pas toi qui en a fait le choix. Le terme ici, Marie a choisi, c'est le terme de notre pouvoir décisionnel qui est appliqué à ce qu'on va faire, bien-aimé. Marie a choisi d'arrêter sa course, d'arrêter de faire ce qu'elle faisait, parce qu'elle a trouvé que la parole du maître était plus importante que les choses factuelles qu'elle était en train de produire. Bien-aimé, la question qui se pose, est-ce qu'on sait faire la bonne part? Est-ce qu'on sait faire le bon choix? La Bible nous dit ici, et je vous relis tout le verset 42, une seule chose est nécessaire. J'en viens à un autre point. Okay? Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point enlevée ou ôtée. Le verset dit, une seule chose, c'est fort là, une seule chose est nécessaire. Ça veut dire que toutes les autres choses pouvaient attendre. Une seule chose est nécessaire. Au milieu du tumulte des nations qu'on vit, une seule chose est nécessaire. Au milieu de cette pandémie, une seule chose est nécessaire. Au milieu de l'agitation, de l'inquiétude du monde, une seule chose est nécessaire. Et ça ne veut pas dire de ne pas faire les autres choses. Ça veut dire de faire d'abord ce qui est nécessaire. Une seule chose est nécessaire, et le terme ici qu'on trouve nécessaire, c'est le même terme que primordial, c'est le même terme d'une chose qui doit être accomplie, qui est une priorité, c'est le même terme. Il dit une seule chose est nécessaire. Marie a fait un choix. La question qu'on doit se poser ce matin, quel choix faisons-nous? Je veux amener votre réflexion, non pas tout simplement au fait que deux femmes travaillaient, puis qu'il y en a une qui était plus pieuse, plus spirituelle, il y en a qui diraient les plus zélées sur le ménage, plus paresseuses que sa sœur. Non, non, non. Je veux attirer votre attention sur le fait qu'il y a des choix qui s'exercent et ces choix-là ont une conséquence, sur le reste. Les choix que nous faisons en ces temps particuliers vont avoir une conséquence sur l'après-COVID. Il y en a qui disent on n'en sortira jamais. On va en sortir. Je ne sais pas dans combien de temps, mais on va en sortir. Ils vont trouver les traitements qui se doivent, peut-être un peu plus longs, mais on va en sortir. Mais si tu as pris de mauvaises habitudes, si ta priorité a changé, si tu t'es mis à t'inquiéter, à t'agiter, oubliant ce qui est nécessaire ou considérant qu'autre chose était nécessaire. Vous savez, pendant le temps que je suivais mes cours bibliques, lorsque j'étais beaucoup plus jeune, par Bethel, je suivais par courrier, parce que je ne pouvais pas me rendre naturellement. Je travaillais femme enfin. Et un jour, je priais. Et je disais, mais Seigneur, je n'ai pas le temps de produire les devoirs. J'ai un enfant de malade, j'ai mon épouse qui n'est pas bien, et je travaille. Mes raisons sont bonnes. Est-ce que vous trouvez que mes raisons étaient bonnes? Un enfant malade, même un peu majeur. Mon épouse qui n'était pas bien, c'est majeur. Il fallait que j'aille gagner la croûte. Ça me semble que ça a du bon sens. Et j'ai dit... Et ne pensez pas que ce que Dieu nous donne des paroles dures. Et j'ai dit au Seigneur, je ne vois pas où je vais avoir le temps de répondre aux devoirs, parce que là, on me demandait, c'était plus juste oui puis non, c'était vraiment des devoirs à développement et des questions à développement. Et lors d'une journée où j'étais à la prière, le Seigneur me dit, laisse ton auto. Chez toi, va travailler en transport en commun. Tu vas pouvoir étudier dans le transport. Et ma première pensée, je sais, vous allez dire, c'est pas spirituel, le pasteur André. Et ma première pensée, je dis, ben non, je vais perdre ben trop de temps si je fais ça. Je parlais de vitesse de temps. Dieu ne me parlait pas de ça du tout. Il me parlait de prendre un autre temps. Est-ce que vous comprenez? Moi, je me disais, je vais perdre du temps dans le transport. Puis Dieu, lui, en fait, il me disait, tu vas gagner du temps. Ça dépend juste de la façon dont on le regarde. Est-ce que vous comprenez? Je le regardais d'une vision tout à fait humaine. Puis je ne crois pas d'être un meilleur humain ou un pire humain que tous les humains sur la Terre. Mais je voyais... Seigneur, si je fais ça, je vais perdre du temps. Puis le Seigneur avait une autre vision, lui. Il avait une autre pensée. Il voulait capter mon attention par l'étude. Puis le Seigneur, lui, il me disait, Non, tu vas gagner du temps. Donc, que ça dépend juste de quel point on se place, de quel angle on regarde l'événement. Et je me rappelle que ça a été un temps très productif. Temps très productif parce que je m'étendais un peu dans le métro parce que mon chemin en métro était très long. Donc, j'avais le temps de mettre quelque chose sur mon côté. Des gens regardaient et j'ai pu parler du Seigneur. Et même, je n'oublierai jamais une dame qui, avant de sortir rapidement, j'oublierai jamais, je la reconnaîtrais même pas. Elle regardait ce que je faisais avec un sourire. J'ai fait un sourire puis j'ai continué à travailler. Elle était probablement trop timide pour m'aborder. Et avant de sortir, elle a mis sur moi quelque chose puis elle est sortie. Et j'ai regardé, c'était une petite épinglette faite à la main. Complètement faite à la main. Je ne l'ai pas gardée longtemps, ma femme l'a saisie, elle l'a gardée pour elle. Complètement faite à la main. Vraiment bien fait, là. Un beau bois verni. C'était une montagne avec un soleil en arrière. C'était écrit « Jésus, mon rocher ». Donc, j'ai su que cet enfant de Dieu-là, qui m'avait croisé, peut-être qu'elle s'est dit, c'est bien ce qu'il fait là, cet homme-là. Et elle sentait peut-être son cœur en dedans d'elle, et elle a posé, puis avant de partir, elle me l'a donné quand j'ai montré à ma femme, regarde, que, femme, c'est beau, elle a mis la main dessus, elle dit, je vais le mettre sur mon manteau. Elle ne m'a pas dit, est-ce que tu le gardes? Je vais le mettre sur mon manteau. Mais sérieusement, j'ai eu des dividendes dans cette perte de temps-là que j'avais calculée, moi. J'ai eu des dividendes. Marie et Marthe voyaient la venue de Jésus de façon différente. Il y en a une qui en a tiré des dividendes, puis l'autre n'a pas tiré de dividendes. Ou a moins tiré de dividendes. Et pourtant, elle a fait un travail, là. Et pourtant, elle a fait un travail. Mais ce qui était nécessaire à son cheminement, ce qui était nécessaire à sa vie chrétienne, a été un peu mis de côté par les différents éléments, les différentes choses que Marthe voyait à faire. Tandis que Marie voyait les mêmes choses, mais a fait un choix différent de sa sœur. A fait un choix différent et ce choix-là va amener Jésus, dans le verset 42, à dire une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Donc, les parts, on les choisit. Peut-être que vous trouvez le prédicateur peut-être moins intéressant. Vous savez que comme croyants, on a tous nos prédicateurs. Non, on va appeler les choses par leur nom. Il y en a qui vont dire, « Ah, j'aime mieux un tel, il est plus imagé. Non, moi, j'aime mieux un tel, il est plus technique dans sa façon de parler. » Et ainsi de suite. Mais les deux vous donnent la même chose. Les deux vous donnent la parole de Dieu. Peu importe si vous aimez mieux le genre A ou le genre B. Les deux vous donnent la parole de Dieu. Est-ce qu'on y porte la même attention? Vous savez, quelquefois, à se précipiter, on peut rester avec des séquelles. À se précipiter, à faire des choses, on peut manquer de quelque chose. Puis, accuser Dieu. Je vous donne un exemple. Je suis descendu de chez moi pour apporter des paquets pour ma femme qui allait visiter sa maman qui est dans un CHSLD et je lui amenais les choses et tout à coup je me tourne et à l'étage où mon frère habite la clé était dans la serrure de la porte était entrouverte. Je dis mais voyons qu'est-ce qui se passe. J'ai mis des choses, je dis à ma femme, faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe. J'enlève la clé. Je dis, il a peut-être oublié. Je rouvre la porte. Je termine d'ouvrir la porte. Elle était ouverte un peu. Et mon frère est à terre. Et comme il est dans son grand âge, il n'était plus capable de se relever. Et j'ai décidé de le relever. Donc, j'ai essayé en premier de le relever au moindre effort. Pas capable. Il n'y avait plus de force. J'étais obligé de le prendre et vraiment de le soulever. Mais mon frère est plus grand que moi et plus costaud que moi. On n'a pas de difficulté à être plus costaud que moi, là, mais il est plus costaud que moi. Donc, ça m'a demandé un effort avec lequel je suis resté une petite séquelle. Je suis resté un peu avec un mal de dos. Et j'ai dû réduire mes activités parce que j'avais mal au dos. Est-ce que vous comprenez? Je vous le transpose. Marie, Marthe ont toutes les deux un choix. Marie a fait un choix différent de Marthe. Mais Marie a reçu quelque chose de différent de Marthe. Elle a fait ce qui était nécessaire. Là, je quitte la situation avec mon frère pour vous amener avec ma belle-fille qui, elle, est en charge, est travailleuse sociale. Et ma belle-fille a dit, « Eh bien non, André, fais jamais ça. » Elle dit, « Faut que tu appelles l'ambulance, tu es trop vieux. » Vous savez, je ne me considère pas si vieux que ça. Mais regardez avec des jeunes yeux, les yeux de ma belle-fille, elle dit, « T'es trop vieux, t'es trop âgé pour faire ça. » Elle dit, « T'appelles l'ambulance et eux vont relever. » Elle dit, « T'aurais dû faire un autre choix, une meilleure décision qui aurait été mieux pour mon frère, sûrement, et mieux pour moi. » Le Seigneur sait ce qui est le mieux pour nous. J'ai pensé faire le mieux. Ma belle-fille, étant dans le domaine de la gérontologie, sait ce qui est le mieux. Donc, elle me dit, « Tu ne fais pas ça. Tu ne fais pas ça. » Je lui dis, « Ouais, c'est vrai, tu as raison. » Nous, on pense savoir ce qui est le mieux. Dieu sait, lui. À quoi je veux vous amener pour l'autre partie de ma prédication? Ça, c'était la partie A de la prédication. C'est-à-dire la mise en situation, regarder ce que les gens font. Les gens ont exercé un choix. Une était inquiète, était agitée. L'autre s'est dit, ces choses-là peuvent attendre, je vais vers le nécessaire. Et elle en a eu des dividendes. Maintenant, vous allez tourner avec moi. Toujours dans Luc, on va aller au chapitre 8. Et avant de lire... la deuxième partie, vous la connaissez, mais je vais vous raconter la première partie. C'est ce qu'on appelle la parabole des quatre terrains. C'est-à-dire, un semeur sorti avec sa semence, et au long du chemin, il y a de la semence qui va tomber dans des endroits différents, qui avec des résultats différents, parce qu'ils sont dans des endroits différents. C'est-à-dire qu'il y a trois terrains inadéquats qui vont donner différentes formules avec le grain de sénévé ou le grain de blé qui est tombé au sol. Et il y a un terrain qui, lui, va donner ce qu'il doit donner. Et à partir du verset 11 à 15, dont je vous fais la lecture, Jésus va donner l'explication à ses disciples. Au verset 11, il va dire, « Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent, puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'il ne... croient et soient sauvés. 13. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont point de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps. Et ils succombent au moment de la tentation. Le moment de la tentation, à ne pas se méprendre, ce n'est pas tout simplement une tentation. C'est tentation, allez voir dans le terme original, c'est aussi épreuve. Verset 14. « Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les soucis et les richesses et les plaisirs de la vie. Ils ne portent point de fruits qui viennent à maturité. » 15. « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent, portent du fruit avec persévérance. » Amen. Quatre sols, quatre terrains, quatre sols qui vont recevoir de la semence. Il y a un même mot ou une même pensée ou une même action qui s'est produite. Ils ont tous entendu la parole. Si vous regardez à chaque verset qu'on a pris, hein, ils vont dire, ce sont ceux qui entendent. L'autre verset, vont dire, c'est lorsqu'ils entendent. Le verset suivant, ayant entendu. Le verset suivant, ayant entendu. Donc, il y a de quoi qui est commun aux quatre sols. Les quatre sols reçoivent la semence. Les quatre sols entendent. Les quatre sols reçoivent. J'en reviens à Marie. Puis à Marthe, ils sont tous les deux dans la même maison. Ils entendent tous les deux. Le choix de l'une et de l'autre est différent. Je vous le transpose dans les quatre sols pour que ça devienne un peu plus factuel à ce niveau-là. Dans la parabole des quatre terrains, on nous donne les explications pourquoi ça ne pousse pas dans trois sols. Ou pourquoi que ça pousse et que ça ne résiste pas. C'est la condition des sols. On s'entend bien? C'est la condition des sols. Je ne suis pas un agriculteur, loin de là. Je ne connais pas l'agriculture non plus. Mais je me suis laissé dire qu'un sol non fertile, il le prépare. Il le prépare pour qu'il devienne fertile. Une des choses qu'ils vont faire, ils vont enlever les pierres, ils vont enlever ce qui va faire obstruction à la machinerie qui va creuser les sillons. Ils vont ce qu'ils appellent engraisser la terre. Ils ne cultiveront pas de suite, ils vont y laisser un an, des fois deux ans, juste à la retourner, à l'enrichir avec différentes choses pour que la terre devienne une terre qui est capable de produire avec ce qu'on va lui donner. Et ici, je vais vous donner une image. Dans les quatre sols qu'on trouve là, c'est sûr, c'est une parabole, mais dans les quatre sols qu'on trouve là, ça ne veut pas dire qu'on est obligé de laisser venir le diable prendre la parole qu'on reçoit. Tantôt, je vous ai parlé de choix. Il ne faut pas penser que c'est quatre sols-là, c'est des choses qui sont vissées, que la situation ne peut pas changer. Oui, ça va arriver. Si Dieu le dit, oui, ça va arriver. Là. Ce que Dieu déclare, ça va arriver. Tout au long de l'histoire humaine, il y a eu ces quatre sols-là. Mais si tu sais que tu n'as pas un bon sol, tu peux faire une job dedans. Passez-moi l'anglicisme, là. Si tu sais, si tu te rends compte qu'un rien tue la parole de Dieu en toi, tu peux faire une job. Mais ça va te prendre du temps, ça va te prendre de la préparation, ça va prendre des éléments, ça va prendre de l'engrais. Il va falloir que tu sues un peu, que tu retournes la terre. Il va falloir que tu fasses quelque chose. Tu ne pourras pas te jeter à genoux puis juste prier, là. Il va devoir avoir des éléments mis en place pour réussir à créer avec ce sol-là infertile un sol fertile. quand on regarde les quatre sols, et il ne me reste pas énormément de temps, mais quand on regarde les quatre sols, on nous donne pas la capacité du sol. La capacité, regardez bien. Et les gens se mélangent quand ils prennent. Je vais le relire là et je vais arrêter à certains endroits là. Voici ce que signifie cette parabole. La semence, on sait c'est quoi? C'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin, c'est ceux qui entendent. Le diable vient et enlève de leur cœur la parole. Enlève de leur cœur la parole de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Donc, le diable vient et enlève la chose, les occupe à autre chose. Mais eux acceptent, là. Eux acceptent. Soyons clairs, là. Quand on dit que le monde est sous l'emprise du diable, on n'est pas en train de dire là, qu'on a dehors des petits robots qui ne réfléchissent pas, que ce n'est pas de leur faute, là. Chacun prend sa décision pour lui-même, là. Donc, que la personne accepte que cette parole-là, se met à réfléchir, accepte que cette parole-là soit ôtée. Vous trouvez dans l'Église, là maintenant je vais le ramener par rapport avec l'Église, des gens qui avaient des convictions fermes, fermes face à des doctrines, fermes dans le Seigneur. Et ces gens-là, leurs convictions se sont étiolées, leurs convictions ont été ensevelies par de la pierre, par autre chose, elle a été pilotée, a été marchée dessus par des doctrines étrangères. Mais ils sont responsables. Deuxième point, ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie, mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils croient pour un temps, ils ne laissent pas la parole rentrer, ils n'ont pas préparer le chemin, ils disent pas, ça poussera jamais là-dessus. Et ils succombent au moment de l'épreuve. Ça se passe un peu de commentaire quand je vous dis, dans les quatre terrains, les quatre entendent, et les quatre ont le choix du ménage qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont juger nécessaire. L'autre terrain, parmi les épines, je m'y arrête un peu plus longtemps, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et la laissent étouffer par les épines, par les soucis de la vie, les richesses, les plaisirs du monde. Et ça, je vous dirais que là-dedans s'engouffre. Là-dedans s'engouffre, bien-aimé, la majorité. S'engouffre la majorité. Des croyants qui perdent de vue la nécessité de la parole. Ils perdent de vue la nécessité de la parole de Dieu car ils ne regardent plus la parole de Dieu comme ils la regardaient. Ils ne voient plus la nécessité de la parole de Dieu comme ils la voyaient. Et cela n'est pas la responsabilité de Dieu. Et je vous le dis, là, ce qui nous est donné ici n'est pas du fatalisme. Mais Dieu sait qu'il va avoir quatre terrains. Ce n'est pas du fatalisme. J'ai dû faire beaucoup de ménage quand je me suis converti. Croyez-moi, je suis loin d'être de la bonne terre. Pensez à votre propre vie. Je suis loin d'être de la bonne terre, mais je me disais, ça ne peut pas rester comme ça. Ça ne peut pas rester comme ça. Je dois prendre des décisions. Aujourd'hui, après 40 ans de conversion, je me suis converti, j'avais 22 ans. J'ai entendu la parole vers 21 ans. Je me suis converti à 22 ans. Et je suis rendu à 62. Aujourd'hui, j'ai encore un travail d'entretien à faire dans mon terrain. Ce n'est pas parce que la parole de Dieu pousse dans mon terrain que je n'ai plus de travail à faire dans ce terrain-là. Ce n'est pas parce que Marthe était une convertie comme Marie qu'elle a fait un bon choix. Ce n'est pas parce que Marthe aimait le Seigneur qu'elle a pris la bonne décision. J'amène votre réflexion encore un peu plus loin. Le verset 15, il dit, « Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui ayant entendu la parole. » Regardez la suite du verset. « Avec un bon cœur, ou avec un cœur honnête et bon, la retiennent. » Porte du fruit. Le porte comment? Avec persévérance. Est-ce que vous voyez dans ces quatre terrains-là, dans ces quatre terrains-là qui nous sont donnés, des attitudes? C'est ça qu'on doit voir. C'est une image, une parabole. En fait, qu'est-ce qu'une parabole? Une parabole, c'est une vérité tirée soit du monde naturel, ou de, comme là, de l'agriculture. C'est une vérité tirée de ce qu'on connaît pour nous montrer une vérité qui la transcende, une vérité plus élevée, morale, ou une vérité spirituelle. Cette parabole-là ne fait pas différent des autres paraboles. Les quatre terrains qu'on trouve là, bien-aimés, c'est des décisions, c'est des choix que les gens prennent. Croyez-moi, j'étais loin d'être un bon terrain. Le dernier terrain nous dit dans un cœur honnête et bon. Et qui persévère. Qui persévère veut dire quoi? Il fait du ménage dans le terrain, jour après jour. C'est un agriculteur spirituel. Il s'arrange pour pas qu'il y ait trop de roches là-dedans. Il s'arrange pour pas qu'il y ait trop de mauvaises herbes qui poussent là. Il s'arrange. Comment on entretient notre terrain si on ne prend pas de temps dans la prière, dans le jeûne, dans la lecture de la parole? Avec quoi s'entretient-on? Et je vous le dis, je ne le vous dis pas comme figure de reproche. Je vous le dis comme une sainte exhortation. Comment s'entretient-on? Si on s'entretient par les médias sociaux, si on s'entretient par les bulletins de nouvelles, si on s'entretient par des jeux électroniques ou quoi que ce soit d'autre, c'est pas mal de faire ces choses-là. C'est mal si ces choses-là sont rendues ta nécessité pour bien te sentir. C'est mal si ces choses-là supplantent Dieu. Les quatre terrains sont quatre types de comportements face à ce qu'ils ont entendu, face à ce qu'ils ont reçu. Et ça, je vous ramène en arrière, c'est le choix de chaque individu. C'est le choix de chaque individu, bien-aimé. C'est le choix de chaque individu de dire « La parole de Dieu me dit la vérité et moi je me trompe. » Ou non, j'ai entendu telle affaire sur Internet. Oui, ça doit être ça. C'est votre choix. Mais vous allez devoir vivre avec les choix que vous faites. C'est ce que les quatre terrains nous disent. Marthe et Marie ont fait des choix. Et ces choix-là ont porté dans leur compréhension et dans l'exercice de ce qu'ils avaient à faire. Chacun choisit, chacun retient ce qu'il entend, et chacun de nous, surtout avec la multitude d'informations, la multitude qu'on peut regarder, chacun de nous choisit d'accorder de l'importance ou son attention. Vous choisissez à quoi vous allez accorder votre attention. Est-ce que la parole de Dieu a toute votre attention? Est-ce que dans la prière, l'Esprit de Dieu a toute votre attention? Vous savez ce qui se passe souvent dans nos prières personnelles? Dans nos prières personnelles, souvent ce qui se passe, et ne me dites pas que ça m'arrive seulement qu'à moi, là. Ça doit, ouais, peut-être que je suis pire que vous autres, là. Mais quand on prie, généralement, le petit hamster se met à courir. Et là, on se dit, oui, c'est vrai, tantôt, il faut que je fasse ça aussi. Alors, là, il faut que je revienne dans la prière. Là, tu pries, Seigneur, prends soin aussi de mon frère Alex, qui est en mission. Je me rappelle d'avoir pris un temps spécifique, ce frère-là. Et prends soin de mon frère qui est là. C'est ta bonne main, Seigneur. Ah oui, c'est vrai, j'ai dit à Manon que j'achèterais telle chose. Je vais l'écrire pour plus que ça me revienne. L'an dernier, j'ai dit, je vais arrêter d'écrire pour plus que ça revienne. Je suis en train d'écrire un livre. À un moment donné, j'ai dit, terminé. Je rejette mes pensées. Et c'est là que ma femme, elle me disait, coudon, elle dit, tu pries de plus en plus fort. Et je sais qu'elle est en train de m'écouter. Là. Elle dit, prie, je dis, je m'enterre moi-même. Bien-aimé, le Seigneur veut notre écoute, veut notre attention pour notre propre bien. Est-ce que le Seigneur veut ton attention parce qu'il y a un conseil à te demander qu'est-ce qu'il va faire avec la pandémie? Est-ce que le Seigneur veut ton attention pour savoir comment et quelles décisions qu'il devrait prendre sur un tel qui est malade? Non, non. Le Seigneur veut ton attention parce qu'il veut te faire du bien. Veut ton attention parce que tu as besoin de lui. Mais c'est nous qui choisissons. C'est nous qui retient au prorata ou, si vous aimez mieux, qu'on retient à défaut d'autre chose. Donc, on choisit à quoi on va accorder de l'importance. Et c'est à cela qu'on va porter notre attention. Est-ce que vous savez? C'est à cela que vous allez accorder votre attention, à ce que vous calculez comme important. Tournez dans Jacques au chapitre 1, et je vous garantis que je termine. Alors, Jacques chapitre 1, verset 23, nous dit, « Car si quelqu'un écoute la parole, les quatre terrains ont tout entendu, Marthe et Marie ont tout entendu, ils ont tout écouté, la parole, la semence est toute tombée dans les quatre terrains. Si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à quelqu'un, à un homme qui se regarde dans le miroir, son visage naturel, et qui aussitôt oublie comment il était, c'est-à-dire il ne fait pas de rétention. Il ne retient pas. Quand je dis souvent aux personnes, lisez la Bible, je ne vous parle pas d'une lecture courante, arrêtez-vous à la parole, prenez le temps de la réfléchir, de la lire, parce que Dieu veut vous faire du bien. Et si ça ne vous imprègne pas, et là, écoutez-moi bien, là. Si la parole de Dieu ne vous imprègne pas, c'est autre chose qui va vous imprégner. Mais il y a toujours quelque chose qui nous imprègne. Si ce n'est pas la parole de Dieu qui vous occupe, quelque chose d'autre va vous inquiéter. Les inquiétudes, les plaisirs de la vie, les épreuves. Mais Jacques dit que si quelqu'un écoute la parole et ne fait pas de rétention, eh bien, c'est quelque chose qui ne lui sert de rien. Je reviens dans Luc. Il me reste 5 minutes et je le prendrai. Je reviens dans Luc au chapitre 11 et le verset 28, où une femme va avoir déclaré à Jésus, « Heureux les mamelles qui t'ont allaité, heureux celui qui va prendre le repas dans le royaume de Dieu, tout dépendant de ce que vous avez. » Et Jésus va faire une réponse. Il va dire, il a répondu, « Heureux plutôt. » Plutôt, ça veut dire mettre les deux choses en égard, puis il y en a une qui est plus importante. « Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. » Ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Et je vais juste m'attarder quelques minutes avant de terminer sur le terme « heureux ». Nous, on pense, hey, je lis la parole puis je suis toujours content. Le terme ici, heureux, c'est makarios, qui ne veut pas dire tout simplement avoir de la joie, qui veut dire recevoir une bénédiction. Le terme « heureux » ici, c'est le terme « makarios » qui prend la forme de bénédiction. C'est pas « ah, j'ai lu deux pages de la Bible, je suis heureux, je suis souriant. » Si je lis la Bible me nourrit, la Bible me rend « makarios », me rend béni. Et cela, c'est notre choix. À chacun pour soi, ici. Je dis souvent, et vous me l'avez souvent entendu dire, la marche chrétienne, c'est une marche solitaire en groupe. Ça peut paraître là un peu à l'opposé, mais la marche chrétienne est une marche solitaire en groupe. On marche tous dans la même direction. On ne marche pas tous au même pas, puis on ne peut pas marcher pour personne. Il faut que chaque personne décide de sa propre marche. Je ne peux pas marcher pour mon épouse ne peut pas marcher pour moi. Je dois prendre la décision pour ma propre marche. Les terrains, chacun entretient son terrain. Être assis au pied du Seigneur, on peut être Marie ou on peut être Marthe. On exerce tout au long de notre vie, des choix. Il y a des choix qui portent pas à, qui ne porteront pas vraiment à conséquence. La première auto que j'ai achetée s'appelait une Renault Alliance. Tu ne souhaites pas une Renault Alliance à ton pire ennemi. Je me rappelle, dans ce temps-là, on avait un camp de famille. À Villa Shalom, dans le canton de l'Est. Et comme moi, je travaillais de nuit, je ne pouvais pas aller, mais je disais à ma femme, je vais aller te voir une fois au moins dans le séjour avec, pour avoir, te voir pour voir les enfants. Et je me rappelle que d'avoir pris un frère, de l'avoir amené avec moi, terminé de travailler, aller voir ma femme. Puis quand j'ai ouvert la porte de la voiture, la porte a littéralement tombé. Là. La porte de la voiture s'est détachée de ma voiture. Et bon, hein, je pense qu'il y avait des frères qui étaient là dans ce temps-là familial que le pasteur Fontalvaux faisait, qui m'ont aidé à rafistoler ma voiture pour que je puisse revenir en ville. Mais ça ne mettait pas en péril d'avoir une Renault Alliance, ça ne mettait pas en péril ma foi. Ça mettait en péril ma vie peut-être, mais pas ma foi. Il y a des choix qu'on fait qui ne portent pas à conséquence, mais il y a des choix qu'on fait, bien-aimés, qui portent tout à fait à conséquence. Heureux plutôt, ou bénis plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la garde. On garde quelque chose. Est-ce que vous savez pourquoi quand on garde des choses? Parce que ces choses-là nous servent. Vous gardez des vêtements à la maison parce que ça vous sert. Ça vous sert à vous habiller. Vous gardez de la nourriture dans le réfrigérateur parce que ça vous sert à quelque chose. Ça vous sert pour la nourriture. À manger. Heureux ceux qui entendent la parole de Dieu et qui la garde. Seigneur, j'ai tout simplement voulu donner aux bien-aimés une réflexion. Et je crois, Seigneur, que tout le monde a été agité de part et d'autre avec les événements mondiaux. Certains prennent des positions à droite, d'autres... C'est pas de ça, Seigneur, que je veux traiter avec eux. Dans ce temps-là particulier, dans ce temps-là difficile, Seigneur, nous avons tous des décisions à prendre. Nous avons tous, Seigneur, à regarder ta parole. Nous avons tous à nous en nourrir. Parce que c'est des temps inquiétants. C'est des temps où le monde est agité. Mais ta parole dit que nous ne sommes pas du monde. Donc, il ne devrait pas avoir chez ton peuple une si grande agitation comme j'ai remarqué au travers de mon ministère. Il ne devrait pas avoir une si grande disparité, des prises de position tranchantes comme le monde prend, parce que le monde est dans la crainte, le monde est dans la détresse. Seigneur, donne-nous, Seigneur, de bien faire du ménage, de bien garder nos terrains en bon état, afin que tu puisses continuer, Seigneur, à y faire pousser ton propre jardin au travers de ces intempéries. Seigneur, à l'instar des deux sœurs, à l'instar des quatre terrains, Jésus a dit que Marie avait choisi, avait fait le bon choix. Quel choix faisons-nous, Seigneur? Seigneur, que tes bien-aimés, Seigneur, puissent entrer en eux-mêmes. Et de façon naturelle, reprendre leur place au niveau, Seigneur, de la lecture de ta parole, de la prière, afin que cette prise-là que tu avais sur eux puisse encore se faire sentir, afin que leur agitation, que leurs inquiétudes, à laquelle, Seigneur, ils sont soumis maintenant, puissent se calmer, puissent prendre la place qui lui revient et nous occuper de ce qui est nécessaire. Seigneur, donne-nous des cœurs humbles et doux, des cœurs, Seigneur, qui croient ta parole, des cœurs qui s'attachent à toi, qu'on puisse aller et aller dans la prière. Les gens sortent moins, Seigneur, les gens ont plus de temps. Pourquoi le gaspiller? Qu'ils puissent aller plus à la prière et te dire, Seigneur, parle, Seigneur, car ton serviteur écoute. Seigneur, bénis ton peuple. C'est la parole, Seigneur, qu'ils ont reçue, donnée par un simple homme. Mais ta parole demeure ce qu'elle est, la vérité. Donc, Seigneur, donne-nous de bien penser, de bien réfléchir à cette parole. Je te remets ton peuple entre tes mains, Seigneur. J'ai prié dans le nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, que Dieu vous bénisse abondamment. N'oubliez pas nos différents rendez-vous de la semaine. Le pasteur Florent, demain, recommence les bénédictions matinales. Nourrissez-vous, réjouissez-vous, soyez heureux, Makarios, par la parole de Dieu. Et si vous voulez une autre dose, moi, demain soir, lundi soir, on étudie le livre aux Éphésiens et mardi soir, on prend aussi un temps pour regarder qu'est-ce que la résurrection. Mercredi, il y aura d'autres enseignements. Vendredi aussi, la parole est là, bien-aimés. Amen, la parole est là. Soyez bénis, que Dieu vous bénisse abondamment et restez dans la paix du Seigneur. Amen.